There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société Neria. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute!
Bienvenue dans ce nouveau podcast Advocat, podcast destiné à vous faire découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant des méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, notre activité consiste à transférer aux avocats les compétences nécessaires pour développer leurs activités et leur permettre de réussir sur leur marché. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Maigret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, qui n'a pas toujours envisagé cette voie. D'un intérêt né à la fac, à travers le concours de plaidoirie LICIAS, jusqu'à la contemplation d'une carrière universitaire, Jérôme a finalement embrassé avec passion la robe d'avocat. Son parcours, de collaborateur à associé, reflète non seulement son amour pour le droit, mais aussi une vision très claire de ce qu'il voulait en décidant de s'associer dans son premier cabinet au Conseil. Nous espérons que ce podcast vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, le diffuser, en parler autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte de la conversation entre Valentin Tanti-Bernard et Jérôme Maigret.
Eh bien écoutez, bonjour Maître Jérôme Maigret, je suis ravi de pouvoir vous recevoir aujourd'hui parce qu'on s'est loupé à plusieurs reprises. Je crois que le score est à mon humble niveau en ma défaveur parce que je crois que j'ai reporté deux fois et vous simplement une. Je ne pense pas avoir un agenda pourtant qui est aussi chargé que celui d'un prestigieux avocat au Conseil. En tout cas, désolé et bonjour. Bonjour Jérôme Maigret.
Bonjour Valentin, merci. Écoutez, l'essentiel c'est d'y arriver
et
d'être là tous les deux pour pouvoir échanger et c'est un plaisir, merci pour votre invitation.
Eh bien avec grand plaisir. Alors ma première question est toujours la même, là je vais un peu la reformuler puisque vous êtes avocat au Conseil. Qui étiez-vous avant de devenir avocat au Conseil?
C'est une bonne question, je pense pas que ce soit une question d'ordre psychologique, vous m'arrêtez si je me trompe. J'aurais aimé vous répondre peut-être... que j'ai toujours voulu être avocat ou avocat au conseil, que c'est une vocation que j'ai depuis l'enfance. Mais c'est pas la vérité, puisque en réalité, je suis devenu avocat au conseil à la croisée des chemins, pour vous dire les choses très simplement. C'est-à-dire que j'ai très rapidement compris que j'avais un goût, une appétence pour la matière juridique, pour l'argumentation juridique. Ça, dès que je suis arrivé à la fac, grâce notamment au concours LICIAS, je ne sais pas si vous connaissez le concours LICIAS, qui est un concours de plaidoirie, et qui a ce mérite-là d'allier le droit et la rhétorique pour les étudiants de première et deuxième année. Dès que j'ai participé à ce concours, dès que j'ai pu comprendre les enjeux, j'ai très vite, effectivement, vu que j'avais un goût pour tout cela. Néanmoins, je me suis au départ plutôt engagé dans une carrière universitaire, puisque j'ai, au terme de mon DEA, m'a fait une thèse à Paris 1. J'étais chargé d'enseignement, moniteur allocataire de recherche, attaché d'enseignement. C'est une période qui m'a passionné. J'ai adoré l'enseignement et c'est toujours quelque chose pour lequel j'ai énormément de goût. Mais il me manquait quelque chose. C'est-à-dire qu'il me manquait ce rapport, je dirais, à la vraie vie, au concret. Et je me suis tourné vers la profession d'avocat à la fin de ma thèse. J'ai commencé à exercer plutôt dans des petites structures parce que j'avais vraiment envie d'être en prise avec la réalité des choses. C'était quelque chose qui était très important pour moi. J'ai énormément aimé ces premières années d'avocat, mais il me manquait quelque chose. C'était la matière juridique. Je ne faisais pas assez de droit. J'en faisais naturellement, comme tous nos confrères à la cour, mais je n'en faisais pas assez. Et c'est comme ça que, à la croisée des chemins, mon goût pour le contentieux, pour la rhétorique et mon goût pour le droit m'ont amené un peu par hasard dans un cabinet d'avocats au Conseil, qui à l'époque s'appelait le cabinet Boré, salle de Bruneton, et qui aujourd'hui s'appelle le cabinet Boré, salle de Bruneton. Et Maigret, je n'ai donc connu qu'un seul cabinet d'avocats au Conseil, celui dans lequel je suis aujourd'hui associé.
Alors, comment ça se passe concrètement? Comment on passe d'un cabinet d'avocats classique, on va dire, un petit cabinet d'avocats à Paris, à finalement un cabinet au Conseil? C'est quoi la rencontre qui vous fait changer?
Très objectivement, ça se passe de façon tout à fait classique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on décide de vouloir intégrer un cabinet, on envoie ses CV au cabinet d'avocats au Conseil, on est reçu par un certain nombre d'entre eux qui sont en train de recruter, et les choses se font tout à fait naturellement. J'avais par ailleurs un profil qui était plutôt compatible avec l'exercice de la profession d'avocat au Conseil, puisque j'avais fait une thèse que j'avais soutenue, j'avais déjà publié un certain nombre d'articles, donc ça a évidemment favorisé mon arrivée au sein d'un cabinet.
Très clair. Quand vous arrivez au sein du cabinet, je crois savoir qu'il faut passer une formation complémentaire. Est-ce qu'il faut le faire également lorsque vous avez soutenu une thèse ou pas?
Alors oui, il faut suivre cette formation et passer l'examen même lorsque vous êtes docteur en droit. Il n'y a pas de passerelle. Et ça paraît, sur le fond, en tout cas moi, ça me paraît assez logique. C'est une chose que d'avoir développé des compétences dans une matière technique spécifique, hein, ce qui était mon cas, parce que j'avais fait une thèse sur un sujet qui était quand même relativement ciblé et relativement spécialisé. C'en est une autre de devenir avocat au Conseil, puisque là, au contraire, on est plutôt dans une perspective de décloisonnement, c'est-à-dire de pluridisciplinarité qui nécessite d'être formé sur la technique de cassation, qui nécessite d'aller s'intéresser à d'autres matières. Et donc oui, même les docteurs en droit doivent effectivement suivre cette formation qui dure 3 ans, hein, et qui ensuite vous permet de passer le certificat d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil et de vous associer dans un cabinet.
Très clair. Quand vous arrivez dans cette profession d'avocat au Conseil et que vous n'êtes pas encore avocat au Conseil, puisqu'au départ, vous n'avez pas réalisé cette formation, qu'est-ce que vous découvrez comme métier? Est-ce que c'est à ça que vous vous attendiez ou est-ce que c'est différent de vos attentes?
C'est assez différent de mes attentes. C'est-à-dire que j'ai été en réalité agréablement surpris. Je pensais que ce métier était un métier de rat de bibliothèque où en réalité la seule chose que l'on faisait c'était rédiger des branches et des mémoires. Et très vite, j'ai perçu que c'était au contraire l'ouverture, c'était le champ des possibles. C'est-à-dire que déjà, comme je vous le disais, je sortais d'une thèse dans une matière assez spécialisée et je me suis ouvert. C'est-à-dire que au cours de ma collaboration, je me suis ouvert à énormément de matières, à énormément de choses, et c'est ça qui, d'emblée, m'a séduit aussi dans cet exercice professionnel. C'est-à-dire que dans le monde de l'ultra-spécialisation, je crois que vous connaissez bien les avocats, on est quand même dans un monde où on considère au contraire que le bon technicien, c'est celui qui est très spécialisé. C'est vrai en partie, mais je pense que ça ne l'est pas totalement. Je pense qu'au contraire, quand on intervient devant les juridictions supérieures, dans les juridictions suprêmes, il faut prendre du champ. La plus-value, elle est là aussi. Il faut être bon technicien, naturellement, mais il faut prendre du champ pour construire, pour élaborer et pour essayer d'œuvrer, parce que c'est en tout cas le rôle que je considère être le mien au quotidien, c'est d'essayer d'aider à la construction du droit et de la jurisprudence à travers les mémoires et les pourvois qu'on soutient devant le Conseil d'État, la Cour de cassation.
Moi, je suis totalement aligné avec vos propos et moi, je soutiens que l'ultra-spécialisation, c'est une bonne chose, mais pas à destination de l'avocat, beaucoup plus à destination du client. Pour montrer à son client qu'en réalité, malgré le panel des avocats qui peuvent exister, par exemple, en droit social, eh ben, en réalité, vous avez un avantage concurrentiel par rapport à eux, parce qu'en plus de faire du droit social comme tous les autres, vous spécialisez sur un secteur d'activité, que sont les entreprises du secteur industriel et plus particulièrement de la chaudronnerie, qui sont entre 50 et 500 salariés. Et donc, à destination du client, vous avez un avantage concurrentiel. Mais là où je vous rejoins à 300%, c'est que moi, les avocats les plus brillants que j'ai pu rencontrer, les plus forts en termes de raisonnement, on va mettre ça entre parenthèses, parce que je ne suis pas un juriste approfondi ou aguerri, ce sont les avocats qui ont aujourd'hui 70 ans et qui ont travaillé toute leur carrière sur 5, 6, 7 ou 8 matières, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant que vous, les avocats au conseil, vous permettiez justement cet élargissement, parce que dans tous les grands cabinets à Paris, on n'a pas le droit. Dès la première année, on doit spécialiser en corpo, en M&A, en taxes, en droit social, etc. Et c'est très difficile de passer d'une matière à l'autre.
Moi, si vous voulez, ce que je constate, c'est que précisément, l'approche pluridisciplinaire, elle permet aussi de révéler des choses qui sont un peu insoupçonnées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'expliquer que le droit est devenu complexe, incompréhensible, avec des surcouches de normes, ce qui pour partie est exact. Mais en même temps, quand on prend un peu de champ sur les matières, c'est-à-dire quand on vient faire des comparaisons entre le droit social et le droit de la fonction publique, entre droit de la régulation économique et des régulations qui ne le sont pas, entre tout simplement le droit privé et le droit public, on s'aperçoit tout de même, quand on prend du champ, que le droit a sa cohérence, il a sa colonne vertébrale. Et lorsque vous êtes amené à soutenir un dossier, à pousser un dossier devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, et que vous n'avez pas le droit positif pour vous, parce que c'est la position qui est la vôtre, ce sont ce type de ressorts-là qu'il faut mobiliser. Pas seulement cela, mais notamment cela, c'est-à-dire d'aller essayer d'expliquer que, certes, la jurisprudence est absolument constante sur tel ou tel point, mais qu'il suffit juste de déplacer un tout petit peu le curseur pour s'apercevoir qu'elle perd de sa cohérence si vous la replacez dans la globalité du droit. Et ça, ça m'a très vite passionné. C'est-à-dire que moi qui sortais ultra spécialisé de 50 thèses où j'ai réfléchi pendant 5 ans pour savoir si la caution payait une dette de dette, si elle était subrogée, pas subrogée, ce qui m'a passionné... ce qui m'a passionné par ailleurs... Ben, ce champ-là, je l'ai trouvé absolument extraordinaire, et c'est ça qui m'a véritablement convaincu de devenir avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. C'est cette idée que j'allais pouvoir prendre du champ, j'allais pouvoir devenir un spécialiste de la technique de cassation, parce que c'est notre prisme de lecture, ce qui favorise ce travail-là. On ne fait que du droit, on ne fait pas du fait, mais qu'en même temps, j'allais pouvoir ouvrir une boîte de Pandore, parce que j'allais effectivement intervenir dans des domaines d'activité qui sont extrêmement variés, ce qui est extrêmement enrichissant intellectuellement.
Et du coup, par rapport à votre première volonté lorsque vous étiez enseignant-chercheur et que vous avez voulu devenir avocat, vous expliquiez tout à l'heure que c'était finalement pour vous ancrer dans la réalité, pour vous remettre sur le terrain. Est-ce que vous ne le perdez pas en ne travaillant que sur le droit ?
Alors non, parce que quand on dit qu'on travaille que sur le droit, c'est-à-dire que la technique qu'on utilise, elle est effectivement une technique qui est fondée sur la distinction du fait et du droit, qui est à la base de la technique de cassation. Hein, pour résumer très simplement, vous le savez, Cour de cassation juge en droit, là où les juges du fond jugent en fait et en droit. Mais pour autant, on ne fait pas du droit pur. Le droit pur, ça n'existe pas. On applique toujours du droit à des faits, et en l'occurrence, on est saisi de dossiers. On est saisi d'une vie d'une entreprise quand on fait de la procédure collective, on est saisi de la vie d'un salarié si on fait du travail. Donc, on ne fait pas du droit pur, on fait du droit appliqué, mais uniquement par son prisme juridique. C'est-à-dire que là où il y a un gros travail compliqué, difficile de mes confrères à la Cour sur la préparation des dossiers en fait, nous, on arrive avec un dossier qui, en fait, est scellé, avec des constatations qui ont été faites par les juges du fond, et cette matière-là, il ne nous reste plus qu'à lui appliquer du droit. Et c'est en cela qu'on ne fait que du droit. Mais on ne fait pas du droit déconnecté de la réalité, parce qu'on part toujours d'un dossier, et on voit parfois certaines évolutions de jurisprudence se faire, vous savez, on dit un peu, c'est cette construction par petits pas. C'est-à-dire qu'on voit la jurisprudence évoluer progressivement. Bien pourquoi ? Parce que précisément, il y a un dossier qui se présente avec un angle factuel qui peut être différent, qu'on ne peut pas ignorer parce que c'est le dossier tel qu'il se présente à la juridiction et qu'on va essayer de pousser pour précisément faire évoluer les choses. Et c'est là où on voit que le fait, même si ça n'est pas notre matrice, notre matière de travail principale, c'est important dans le cadre de la procédure de cassation. On voit bien qu'il y a des dossiers dont la contextualisation se prête davantage à des évolutions de jurisprudence, là où au contraire, d'autres paraissent peu propices à faire évoluer les choses. Donc non, j'ai pas le sentiment d'avoir sacrifié cette volonté initiale qui était d'être ancré dans la réalité, parce que je ne réfléchis pas sur du droit pur, je réfléchis sur des faits, à partir d'un dossier, et c'est ça qui est extrêmement stimulant.
J'achète l'argumentaire. Ok, vous arrivez quand dans cette profession ?
J'arrive dans cette profession, je deviens collaborateur il y a plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans.
Et vous êtes devenu associé quand ?
Je suis devenu associé 6 ans après.
Ok. Comment ça se passe ces 6 années en tant que collaborateur ? Comment vous évoluez ?
Alors écoutez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ces 6 années de collaboration, ce sont 6 années d'ouverture. D'abord d'ouverture à la technique de cassation, que je connaissais, mais que je connaissais mal, parce que c'est quand même une technique qui est relativement complexe. Donc, pendant ces 6 années, je me suis formé à la technique de cassation, ou plus exactement, j'ai été formé à la technique de cassation par mes deux associés actuels, Louis Boré et Jean de Salle de Moncton, et naturellement par les enseignements de l'Institut de formation des avocats au conseil. Mais c'est aussi l'ouverture vers d'autres matières. Je vous l'ai dit, je sors de l'université en ayant fait une thèse de droit des sûretés, je m'ouvre au droit public, qui est absolument essentiel aujourd'hui lorsqu'on exerce cette profession d'avocat au conseil et qui occupe par ailleurs de plus en plus de place dans notre système juridique. Je m'ouvre aussi à d'autres matières que je connais moins bien, le droit social. Enfin, ce sont 6 années d'ouverture et 6 années aussi pour comprendre, en tout cas c'est comme ça que je les ai ressentis, 6 années pour essayer de comprendre à quoi servait cette technique de cassation. Parce qu'au fond, c'est un peu curieux quand vous prenez un peu de champ, mais bon sang, qu'est-ce que c'est que cette technique qui vient régir le dernier recours après avoir plaidé en première instance en fait et en droit, en deuxième instance en appel en fait et en droit? Pourquoi venir opérer une telle distinction et surtout à quoi sert-elle? Quelle est la finalité de cette technique? Et ça, je sais que ces 6 années, elles ont été assez riches parce que elles m'ont permis de tirer 2 enseignements. Je ne suis pas persuadé que tout le monde les partage, mais le premier enseignement, c'est que c'est une technique qui est en réalité très vivante. C'est-à-dire que si vous observez la jurisprudence, vous apercevrez assez rapidement que la technique de cassation, elle est utilisée non pas comme étant une fin en soi, mais vraiment comme un outil qui est au service de la fin qui est poursuivie par la Cour de cassation et le Conseil d'État, c'est-à-dire la construction de la jurisprudence. Et c'est pour ça que on peut s'apercevoir de phénomènes qui a priori sont curieux, c'est-à-dire que vous voyez par exemple des notions qui sont un jour contrôlées par le juge de cassation et puis qui le lendemain ne le sont plus. Inversement, vous avez des notions qui ne sont jamais contrôlées et puis qui le deviennent. Et bien ça s'explique assez facilement par cette idée que la technique, elle est là pour servir cette fin, c'est-à-dire que elle est là tout simplement pour construire la jurisprudence, pour aider à la construction de la jurisprudence. Lorsque le juge de cassation estime que il doit mettre sa pierre à l'édifice, et bien il va ouvrir les voies du pourvoi et les voies du contrôle. Lorsqu'au contraire il considère que tout simplement les choses sont, je dirais, construites, que les lignes directrices sont tracées, et bien il peut décider de refermer son contrôle parce qu'il n'est plus utile qu'il vienne tout simplement apporter sa contribution à l'œuvre qui a déjà été l'œuvre créatrice de la jurisprudence. Et ça, ces 6 années de collaboration, pour moi, c'est ça, c'est apprendre la technique pour justement comprendre comment en sortir, pour pas ne rester enfermé dans cette technique. Et ça aussi, avec l'angle de la pluridisciplinarité, c'est ça qui m'a énormément séduit dans cet exercice professionnel. C'est-à-dire que lorsque vous abordez un dossier, dans bien des hypothèses, si vous vous contentez de l'aborder par un prisme strictement positiviste, si vous vous contentez tout simplement de vous dire que vous êtes dans un domaine dans lequel a priori la Cour de cassation ne contrôle pas, donc ça ne sert à rien d'envisager un pourvoi, vous risquez probablement de passer à côté de dossiers passionnants où justement il faudra à travers la technique aller expliquer que même si on est dans un domaine non contrôlé, eh bien il y a une exigence de motivation, ou au contraire aller pousser la Cour de cassation ou le Conseil d'État à opérer un contrôle là où traditionnellement il n'en opère pas. Donc c'est ça qui est extrêmement stimulant intellectuellement. Vous avez le fond du dossier, la matière, le droit, pour lesquels vous avez plus ou moins d'appétence en fonction des dossiers, et puis vous avez la technique qui devient elle-même un outil formidable de création pour essayer tout simplement de défendre les intérêts de votre client, parce que c'est quand même mon exercice professionnel, c'est d'être avocat avant tout, alors avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, mais avocat défendre, en l'occurrence, l'intérêt des clients.
Très clair. Dans les cabinets d'avocats, je ne vais pas dire classiques, parce que c'est dans les cabinets d'avocats d'affaires, donc les avocats à la cour et pas à la cour de casse, pour devenir associé, ce qui est important, c'est de générer du chiffre d'affaires. C'est de pouvoir apporter, selon le type de cabinet, 1,5 million dans les cabinets les plus prestigieux, voire un peu plus. Dans les autres cabinets, réussir à sortir au moins 300 000 ou 400 000. C'est l'élément essentiel. Si vous en arrivez au moment de l'association, qu'est-ce qui est le plus important dans un cabinet d'avocats au conseil et comment est-ce que vous, vous êtes devenu avocat associé au sein de ce cabinet?
Alors... Effectivement, là où vous avez parfaitement raison, c'est que la problématique de chiffre d'affaires, en tout cas de faculté à générer du chiffre d'affaires, est une problématique qui n'est pas au cœur d'une association d'avocats au conseil, en tout cas qui n'a pas, je crois, été au cœur de la mienne. Comme je vous l'ai dit, je suis peut-être le plus mal placé pour vous parler de ces questions, puisque je n'ai connu qu'un seul cabinet d'avocats au conseil. Je crois, en tout cas, que le plus important... Ça va peut-être vous paraître d'une légèreté insoutenable. Je crois que le plus important, c'est le goût. Voilà, c'est le goût pour le droit, le goût pour la technique, l'appétence pour ce métier qui est un métier absolument passionnant, mais extrêmement exigeant. C'est-à-dire que aborder un dossier en cassation, ça nécessite d'avoir une aptitude à pouvoir synthétiser les choses très rapidement, à pouvoir mettre l'accent sur les difficultés aussi rapidement, et ensuite de construire. Parce que nous sommes, en quelque sorte, un peu, en tout cas c'est comme ça que je conçois les choses, des bâtisseurs, et comme je vous le disais tout à l'heure, si on se borne à avoir une approche strictement positiviste, on ne construit rien, on ne fait pas évoluer la jurisprudence, on ne pousse pas nos juridictions suprêmes dans leur retranchement, ce qui est, je crois, fondamentalement le rôle d'un avocat. Donc, ce qui est essentiel, c'est ça. C'est, bien entendu, de développer des compétences techniques. Hein. Il n'y a pas de sujet. Vous ne pouvez pas être un bon avocat au conseil comme vous ne pouvez pas être un bon avocat à la cour si vous êtes un mauvais technicien. Mais il faut avoir le goût de cela. Et alors après, je crois qu'une association, c'est aussi une affaire de personnes, surtout quand on est trois. Nous, en l'occurrence, nous avons, je dirais, une entente qui est vraiment de grande qualité. Tous les trois très différents, mais je pense très, très complémentaires. J'ai évidemment énormément de respect et d'admiration pour mes deux associés qui m'ont formé, mais au-delà de ça, humainement, tout simplement, le courant passe, on travaille quotidiennement ensemble, et quand vous vous engagez sur des décennies, hein, ce qui a priori est notre perspective, en tout cas, on en a déjà presque consommé une, eh bien, tout simplement, c'est aussi des considérations qui sont très importantes. Donc je suis devenu associé naturellement pour répondre à votre question, c'est-à-dire que j'ai été diplômé au mois de décembre, et au mois de janvier, mes associés me faisaient une proposition pour justement bâtir ce cabinet ensemble. Je n'ai pas hésité une seule seconde à l'accepter, et j'en suis très heureux.
Très clair. Pour les auditeurs qui le sauraient peut-être pas, et j'espère ne pas raconter de bêtises, contrairement aux avocats à la cour, pour pouvoir devenir avocat au conseil, il faut s'installer dans un cabinet d'avocats existant, racheter une partie de la charge, si je ne raconte pas de bêtises, et ça, ça peut valoir un peu d'argent, comme c'était le cas par exemple chez les notaires, avant la libéralisation Macron, qui a quand même un petit peu baissé les prix. C'est toujours le cas aujourd'hui, chez les avocats au conseil.
Tout à fait. Il y a deux voies d'accès à la profession post-diplôme du certificat d'aptitude à la profession d'avocat au conseil. La première, c'est celle que vous venez de décrire, hein, qui a été la mienne, c'est-à-dire que vous rachetez les parts d'un cabinet qui est existant. Et puis, la seconde voie, c'est celle qui est aussi née de ce que vous avez appelé la libéralisation Macron, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des créations de charges qui permettent à des diplômés, tout simplement, de s'installer sans avoir à racheter les parts d'un cabinet existant ou sa totalité.
C'est sous format d'un tirage au sort, comme c'est le cas pour les notaires ?
C'est pas sous format d'un tirage au sort, c'est sur dossier.
Ok, très clair. Et comment la profession a accueilli ça ? Enfin, je sais que vous ne représentez pas la profession, enfin, vous n'êtes pas là pour parler de la profession, mais vous, votre vision de tout ça ?
Alors effectivement, la profession, il faudra l'interroger. Pour ma part, j'ai accueilli ça... sans aucune difficulté. Pour une raison simple, c'est parce que je pense que plus une profession est dynamique, plus tout simplement elle s'enrichit. Et donc, dans cette mesure-là, le fait que des confrères puissent accéder à des charges sans racheter des parts, ça ne me pose aucune difficulté, d'autant que c'est pas du tout le même modèle économique. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous installez au sein d'une structure qui a déjà sa clientèle, qui est installée, qui a sa réputation, et de l'autre, vous avez tout à bâtir. Donc, c'est pas le même modèle, c'est pas la même finalité, c'est pas le même exercice professionnel, et donc, ce sont des questions de choix. Moi, je sais que je souhaitais de toute façon favoriser plutôt une association que m'engager seul sur une charge, parce que je crois qu'on est plus fort lorsque l'on est plusieurs. Et par ailleurs, de toute façon, cette question ne s'est pas posée, puisqu'une fois encore, j'ai très vite reçu une proposition d'association du cabinet au sein duquel j'exerçais, et qui m'est naturellement apparue comme étant la voie la plus intéressante.
Oui, c'est la simple distinction entre une création d'entreprise et un rachat d'entreprise. Ni plus ni moins.
Exactement.
Très clair. Les cabinets d'avocats à la cour, désolé, je fais beaucoup de comparaisons parce que je connais beaucoup mieux les avocats à la cour que les avocats au conseil, fonctionnent sous des formats de département. Vous avez trois avocats associés qui sont associés au sein d'une structure. Un fait du fiscal, l'autre du droit des sociétés, l'autre du droit social. Ils créent autour d'eux des départements avec des collaborateurs, des paralégales qui sont présents. Et comme ça, en fait, s'installent des départements au sein du cabinet qui doivent tous générer du chiffre et un chiffre d'affaires profitable pour que l'associé puisse bouffer à la fin du mois. Comment ça se passe au sein d'un cabinet d'avocats au conseil? Est-ce qu'on a des départements où on pourrait avoir les spécialistes du conseil d'État et les spécialistes de la cour de casse, ou au contraire des spécialistes du droit public, des spécialistes du droit pénal, des spécialistes du droit des affaires? Comment ça se passe exactement au sein de votre cabinet?
Alors, effectivement, en fait, bien de préciser, parce que je pense que ça dépend quand même d'une structure à une autre. Donc, en tout cas, nous concernant, d'abord, je vous l'ai dit, notre première spécialité, c'est quand même la technique de cassation. C'est-à-dire que c'est notre prisme de lecture et d'analyse. Et ça, bien, nous sommes tous, en tout cas tous les trois nous concernant, des spécialistes de la technique de cassation. Après, nous, on a fait le choix, tout simplement, non pas de se dispatcher les clients, mais de se dispatcher plutôt des matières qui restent des domaines relativement vastes, parce que précisément, on est un cabinet pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on intervient dans tous les domaines. Le cabinet intervient à la fois devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'État. Il intervient devant toutes les chambres de la Cour de cassation, en matière civile, en matière commerciale, en matière pénale, en matière sociale. Donc, on a un spectre, même, je dirais, par associé, qui est un spectre assez large. Mais nous avons fait ce choix-là, c'est-à-dire ce choix de nous répartir plutôt des matières pour, en plus, venir, je dirais, développer encore plus de compétences sur le fond. Mais une fois encore, je reste attaché à cette idée, parce que je crois que vous avez compris qu'elle était assez importante, que l'ouverture me paraissait quelque chose d'absolument déterminant, en tout cas dans mon exercice professionnel, et je demeure attaché, même dans les matières dans lesquelles j'interviens peu, je reste attentif, toujours, à la jurisprudence, aux constructions jurisprudentielles nouvelles, parce qu'elles sont tout simplement source d'inspiration. C'est-à-dire que même dans des domaines qui ne sont pas les miens, eh bien, je vais essayer de me nourrir d'un certain nombre de constructions doctrinales et jurisprudentielles, parce que ça peut me permettre, une fois encore, d'aller développer une argumentation dans un dossier.
Très clair. On en est où en termes d'équipement au sein des cabinets d'avocats au conseil, d'outils technologiques? On voit les bases de données, je suppose que c'est évidemment oui, mais des outils de gestion de cabinet d'avocats, des outils d'intelligence artificielle, des outils d'automatisation de certaines tâches, est-ce que vous utilisez ce genre de choses au sein de votre cabinet, ou finalement les éditeurs classiques sur le marché ne s'approchent pas trop des cabinets d'avocats au conseil?
C'est une question, je crois, essentielle que vous posez. En tout cas, je pense que la place des nouvelles technologies, je dirais, d'une manière générale, la place que vont occuper ces nouvelles technologies dans le droit est une question absolument centrale. Aujourd'hui, ce que je constate, en tout cas moi, dans mon cabinet, c'est qu'il y a finalement sur le marché très peu d'outils que je dirais exploitable au quotidien d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que, vous l'avez évoqué, il y a bien entendu des moteurs de recherche qui sont de plus en plus performants. Il y a bien entendu, je dirais, dans tout ce qui relève du workflow d'un cabinet, des automatisations qui peuvent se mettre en place. Mais le sentiment qui est le mien, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore sur le marché des outils qui véritablement sont efficients. Et je, comme tout le monde, j'ai essayé tout simplement avec des tests de voir ce qu'on pouvait réaliser avec les outils actuels qu'on trouve et qui sont grand public. Très clairement, ça ne fonctionne pas. Hein. On a évoqué des hypothèses aux États-Unis, tout simplement de jurisprudence qui était inventée par la machine. C'est absolument pas propre au système anglo-saxon. On trouve exactement la même chose. Si vous faites des tests avec certains outils, vous verrez bien qu'il y a des solutions jurisprudentielles qui n'existent pas et qui pourtant sont présentées comme de droit positif. Pour autant, mon sentiment, c'est que ça ne veut pas du tout dire qu'il faut se désintéresser de tout cela, bien au contraire. Ça veut dire que je crois qu'il est absolument indispensable que les avocats s'intéressent à ces outils et qu'ils ne laissent pas tout simplement les choses se faire à leur place. Ça ne veut pas dire qu'il faut se méfier de la nouvelle technologie ou vouloir absolument freiner un mouvement qui est ou non inéluctable, j'en sais rien, je ne suis pas technicien, mais ça veut dire que, compte tenu des enjeux qui sont attachés à ça, hein, c'est-à-dire que de la potentialité qui est présentée aujourd'hui, il est absolument indispensable, en tout cas moi, c'est ce à quoi je m'attache, à s'y intéresser et à se demander, bon, ces outils vont probablement se développer, dans quelle mesure on peut contribuer à leur développement ? Je crois que c'est le premier point. Et ensuite, une fois qu'on s'est demandé dans quelle mesure on pouvait y contribuer, dans quelle mesure on souhaite que ces outils viennent se substituer à telle ou telle tâche, peu importe de la tâche dont il s'agit. Mais il y a un véritable enjeu, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu pour le libre arbitre qui est absolument fondamental. Et j'espère en tout cas que je trouverai le temps, parce que c'est de l'investissement en termes de temps, que je trouverai le temps dans les années à venir. Je m'intéresse beaucoup à ces questions. Hein, quelles sont les incidences de l'open data, par exemple, sur la création du droit ? C'est un enjeu qui est absolument majeur. C'est-à-dire que l'open data, quoi qu'on puisse en penser, aujourd'hui est en train de se concrétiser, tout simplement, d'abord parce que toutes les décisions de justice sont les unes après les autres, tout simplement mises en ligne sur les plateformes, là où avant on n'en avait qu'une partie. On aura probablement à terme la totalité. Et par ailleurs, le second enjeu, c'est qu'on a des outils qui sont en mesure de les exploiter. C'est-à-dire qu'on a des moteurs de recherche qui sont suffisamment puissants pour les exploiter. Et le risque, je crois, de tout cela, c'est tout simplement qu'on change de paradigme sans s'en apercevoir. C'est-à-dire que notre système juridique est un système qui est syllogistique, hein, c'est-à-dire que c'est le raisonnement qu'on apprend en première année de droit, la règle de droit, les faits et son application. Et plus on va mettre à la disposition des précédents jurisprudentiels, plus la tentation sera grande pour les uns et les autres de substituer au raisonnement le précédent. Il ne s'agit pas de se demander si c'est bien, pas bien, si il faut le faire ou non. La technologie sera ce qu'elle sera, mais il est absolument indispensable de s'interroger sur ce qu'on va en faire et de s'interroger sur justement quelle sera notre éthique, hein, quelle sera l'éthique de mon cabinet dans l'utilisation de ces précédents, parce que lorsqu'on va utiliser telle ou telle plateforme, on n'aura probablement pas le même résultat. Quels sont, dans tout simplement un système comme celui-ci, encore la place qu'on peut accorder tout simplement au raisonnement. Ces enjeux-là, ils sont, de mon point de vue, absolument majeurs, et j'y suis attentif au cabinet. On a beaucoup d'échanges en interne à mon cabinet sur ces questions, avec naturellement mes associés, mais aussi avec les collaborateurs qui se posent les mêmes questions que vous venez de poser, mais dans quelle mesure, à terme, on va avoir des outils qui vont tout simplement se substituer à certaines des tâches qu'on peut accomplir. Est-ce que, dans ces conditions-là, ça va conserver une utilité de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui ? Tout ça sont des questions qui, aujourd'hui, sont sur la table. Je crois qu'on est quand même encore très loin d'avoir des outils qui vont conduire à substituer qui que ce soit par une machine, mais il n'empêche qu'il faut y être attentif. Et en tout cas, moi, j'espère essayer de contribuer dans la mesure du possible à ces questions-là.
Très clair. En termes de développement d'activité, comment vous fonctionnez ? Je crois penser, mais peut-être à tort, la stratégie des cabinets d'avocats au conseil est d'être très proche des avocats à la cour, parce que c'est une manne importante de dossiers. Étant donné que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les avocats à la cour s'occupent des faits et du droit, enfin c'est pas eux qui jugent, mais en tout cas ils interviennent pour leurs clients en première instance et en appel, c'est eux derrière qui peuvent être les principaux prescripteurs à vos activités. Vous avez également des clients directs, des institutionnels ou des corporates qui viennent vous chercher eux-mêmes. Qu'est-ce que vous mettez en place au sein de votre cabinet justement pour développer cette activité?
Alors je vais peut-être un peu vous surprendre, mais le développement de clientèle, c'est évidemment un aspect important pour un associé. Ça fait partie des attributions de l'associé. C'est pas ce qui m'obsède.
Okay.
C'est-à-dire que je me réveille pas le matin en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour développer ma clientèle. Ça veut pas dire, une fois encore, que je néglige cet aspect-là. Ça veut dire simplement que c'est pas ce qui me motive et c'est pas ce qui m'obsède. Ce qui m'obsède avant tout, c'est la qualité de ce que je produis. Quand je dis « je », c'est naturellement la qualité de ce que mon cabinet produit. Pourquoi est-ce que cette question-là me paraît déterminante ? Parce que je crois que c'est le premier ressort du développement de la clientèle. Les avocats au Conseil d'État à la Cour de cassation et le cabinet Boré, Salle de Mouton-Maigret a cette chance de tout simplement avoir une visibilité parce que les arrêts qui sont rendus par les juridictions supérieures, par la Cour de cassation, par le Conseil d'État, porte le nom de mon cabinet dans les affaires dans lesquelles j'ai occupé. Et ça, c'est une chance absolument extraordinaire, parce que c'est une visibilité de ce que nous faisons. Et donc, je crois que le premier point, c'est évidemment la qualité du travail. Alors, la qualité du travail, ça passe par quelque chose auquel, au cabinet, on est très attaché, c'est la formation. C'est-à-dire que la formation des collaborateurs, c'est évidemment une clé, de mon point de vue, tout simplement, de la qualité de ce travail-là, parce que ce sont eux qui sont en première ligne, et ce sont eux qui, du coup, sont les premiers à travailler en collaboration avec l'associé sur le dossier. Et donc, je passe beaucoup de temps dans mon activité professionnelle, comme mes deux associés passent beaucoup de temps dans leur activité, à former les collaborateurs et à les former longtemps. Je crois savoir qu'il y a quand même un turnover assez important dans les cabinets d'avocats à la cour. Chez moi, il n'y a pas beaucoup de turnover. Au cabinet, les collaborateurs restent au minimum une dizaine d'années, ce qui, je pense, est un atout absolument majeur, à la fois en termes de formation, parce que ça nous donne le temps, et aussi parce que ça nous permet d'avoir des équipes qui sont extrêmement compétentes et sur lesquelles on peut au quotidien s'appuyer pour la préparation des dossiers. Donc, je suis absolument convaincu que c'est le premier axe, c'est la qualité du travail, et donc ça nécessite de passer du temps sur les dossiers avec les collaborateurs. Maintenant, je ne vis pas dans ma tour d'argent, je sais qu'il y a d'autres choses qui sont importantes auxquels j'essaye, une fois encore, de contribuer au quotidien. Il y a le service. Voilà, ça paraît peut-être évident, mais je crois que c'est aujourd'hui fondamental.
C'est essentiel.
C'est-à-dire que les rapports que nous avons avec nos correspondants, moi, je crois bien plus à à l'opportunité de fournir un bon service que d'aller faire un bon déjeuner, pour dire les choses très simplement. Parce que, nos correspondants, les avocats à la cour avec lesquels nous travaillons, ils ont eux-mêmes des contraintes à l'égard de leurs propres clients. Et donc, on doit être dans une dynamique qui est collaborative. Je reste maître des écritures que je produis devant les juridictions suprêmes. Mais néanmoins, je ne peux pas mettre à l'écart mon correspondant. Je dois l'informer, ça va de soi. Lui adresser des projets en temps et en heure, c'est absolument évident pour que lui-même, le cas échéant, ait le temps tout simplement de les répercuter à ses clients et d'échanger avec moi. Donc, cette qualité de service, elle me paraît absolument déterminante. Et après, il y a tout le reste. Et le reste, là encore, ça veut dire essayer tout simplement d'exister dans le monde qui nous entoure. Donc, ne pas négliger la communication. Je pense que c'est très important de communiquer. Pas communiquer pour communiquer. Communiquer pour expliquer ce que l'on fait, comment on le fait, et pas se borner, je dirais, à faire de la communication tweet. Il faut en faire. C'est important. Mais il faut aussi, je crois, utiliser des vecteurs de communication plus substantiels. Hein, c'est-à-dire ne pas oublier que, ben, écrire, c'est important. Moi, je crois que c'est extrêmement important pour montrer tout simplement ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'écrire, comment on est capable de réfléchir. Donc, on a une politique doctrinale qui est très importante au cabinet. Vous le savez peut-être, mon associé Louis Boré rédige les traités de la cassation en matière civile, en matière pénale. Moi, j'ai publié récemment un ouvrage sur le cautionnement aussi chez Dalloz. Nous enseignons tous les trois à Sciences Po, à Paris 2. Je crois que c'est très important aussi pour montrer ce que l'on fait, ce qu'on est capable de faire. Et enfin, il y a une dernière problématique à laquelle je m'intéresse particulièrement parce que je la crois aujourd'hui de plus en plus importante. C'est la problématique de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Je fais partie de ceux qui pensent qu'on ne peut pas tout attendre de l'État et que donc, à notre échelle, voilà, on doit précisément œuvrer pour tout simplement des questions qui sont fondamentales. La qualité de vie de nos collaborateurs, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Mais il y a aussi le reste. On a des réflexions à mener sur quelle est notre empreinte carbone. Alors, évidemment que ce n'est pas le cabinet Boré Save de Brunton qui va réduire l'empreinte carbone de la planète. Mais enfin, si chacun d'entre nous met son caillou à l'édifice, on sera toujours dans une situation qui sera meilleure que si on ne le fait pas. Et je crois que ces problématiques-là de RSE, elles deviennent aussi de plus en plus importantes pour nos clients et nos correspondants. Donc indirectement, très concrètement, ça participe du développement de l'entreprise. Et ça, ben, ce sont des cultures qui sont probablement un peu nouvelles, c'est-à-dire que c'est pas forcément le réflexe premier de l'avocat. En tout cas, moi, je n'ai pas reçu de formation sur ces problématiques-là. Quand je suis devenu associé, il a fallu développer ces compétences parce qu'on n'apprend pas ça ni à l'école du barreau, ni dans les formations qui sont les formations des avocats. Ce qui, au demeurant, paraît assez logique, puisque faut d'abord apprendre son métier avant de savoir comment est-ce qu'on va l'exercer. Mais ces problématiques-là, je les crois essentielles. Donc, quand on parle de développement, ben voilà, c'est un peu ça, si vous voulez, la synthèse, mes piliers à moi, la qualité du travail en un, la qualité du service en deux, parce que c'est absolument essentiel, la communication, mais sans céder à la facilité, c'est-à-dire vraiment communiquer sur du substantiel. Et enfin, les problématiques RSE, qui, je pense, aujourd'hui, représentent un enjeu relativement important.
Très clair. Qu'est-ce que vous mettez en place à destination des collaborateurs pour que, justement, ils puissent conserver, en réalité, cet équilibre de vie ? Vous en parliez dans la catégorie impact sociétal que vous pouviez avoir, notamment avec les hommes et les femmes qui travaillent avec vous. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement au sein du cabinet ?
Alors, on a mis en place beaucoup de choses ces dernières années. Parce que je crois que le rapport au travail a changé, que les perspectives des jeunes collaborateurs il y a 10 ans ne sont pas les perspectives des collaborateurs aujourd'hui. En tout cas, il y a des problématiques nouvelles qui sont apparues. Et ma conviction profonde, c'est que si vous ignorez cela, vous passez à côté de certains talents. Et si vous passez à côté de certains talents, vous le faites au détriment, tout simplement, de vos propres clients. Donc, on a mis en place des choses très concrètes. La première chose, c'est que depuis longtemps, bien avant le Covid, on a développé une politique de télétravail vraiment extrêmement flexible. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que le télétravail, c'est absolument pas l'alpha et l'oméga. Certains en veulent, d'autres n'en veulent pas. Certains en veulent plusieurs jours par semaine, d'autres, au contraire, préfèrent se... à une journée maximum. Nous, là-dessus, on est totalement flexible, en tout cas pour nos collaborateurs libéraux, parce que le droit du travail nous impose encore pour nos salariés, parce qu'on a quand même une équipe administrative pour laquelle on a également développé une politique de télétravail. Le droit du travail est aujourd'hui encore moins souple, enfin, pas aussi souple, évidemment, que pour un libéral. Mais c'est la première chose, c'est-à-dire que cette politique du télétravail, on l'a développée bien avant le Covid, parce que on a eu cette conviction que c'était un des leviers, c'est évidemment pas le seul, mais un des leviers pour permettre tout simplement d'avoir un équilibre vie professionnelle, vie familiale différent. Songez que En tout cas, certains collaborateurs de mon cabinet habitent à une heure et demie du cabinet. C'est 3 heures par jour de transport. Bon, si vous leur permettez d'économiser ces 3 heures par jour, 2, 3, 4 jours par semaine, que sais-je, si c'est une semaine qui est pas très chargée, moi, ça ne me pose aucune difficulté. Ça me pose d'autant moins de difficulté qu'aux sélections de nos collaborateurs, nous ne les rémunérons pas au forfait. C'est-à-dire que nos collaborateurs libéraux ne sont pas rémunérés au forfait, sont rémunérés à la tâche, c'est-à-dire au dossier. Ce qui est, de mon point de vue, un système extrêmement confortable dans le rapport que vous avez avec un collaborateur. Pourquoi ?
C'est dingue.
Tout simplement parce que, si vous voulez, ça libère complètement de toute contrainte hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un minimum de rémunération qui est garanti, ça va de soi, et ça nous est logiquement imposé par nos barreaux respectifs, le barreau de Paris et leurs avocats conseils. Mais ce niveau minimum, c'est pas du tout la manière dont nous fonctionnons. Les collaborateurs sont payés à la tâche, en fonction, bien entendu, d'une grille qui correspond à leur ancienneté, leurs compétences, la difficulté du dossier. Mais ça simplifie la vie. C'est-à-dire que, d'abord, celui qui a envie, tout simplement, de travailler davantage pour gagner plus, il est libre de le faire. Celui qui, dans une période de vie, au contraire, a besoin de lever le pied pour des raisons qui lui sont personnelles, eh bien, ça ne pose pas difficultés. Et ça, je pense qu'en termes de qualité de vie du collaborateur, c'est quand même quelque chose d'extrêmement précieux. C'est pas du tout inédit. Hein, je crois savoir que d'autres de mes confrères fonctionnent comme ça.
Sur les cabinets d'avocats à la cour, en tout cas, c'est inédit. Moi, j'ai jamais vu ça au sein d'un cabinet d'avocats à la cour.
Je pense que c'est beaucoup plus compliqué dans le cadre d'un cabinet d'avocats à la cour, puisque les dossiers sont beaucoup moins monotaches que celles que les dossiers des avocats au conseil.
Mais c'est vrai, mais du coup, ça veut dire... Désolé, je rentre là-dessus, parce que c'est quelque chose que je connais pas, et je trouve que c'est assez novateur, et que ça me plaît beaucoup, en tout cas novateur par rapport à mon œil juvénile, par rapport au cabinet d'avocats au conseil. Mais imaginez que dans votre cabinet d'avocats, il y a un dossier qui soit un équivalent de l'AJ, je sais pas si ça existe l'AJ pour les pourvois, mais un équivalent et un dossier qui soit un dossier à 100 000, ce même dossier serait rémunéré de la même manière. Comment vous fonctionnez pour la difficulté des dossiers ou justement pour le volume?
Alors d'abord, la difficulté juridique d'un dossier ne se mesure pas à son enjeu économique. En fait, c'est vrai. Bien entendu qu'il y a des dossiers à fort enjeu qui, tout simplement, sont beaucoup plus complexes que d'autres, mais vous pouvez aussi et ça arrive, être confronté à un dossier à l'aide juridictionnelle, qui soit un dossier qui soit extrêmement complexe. Donc, j'aborde pas, si vous voulez, la question de la rémunération du collaborateur sous l'angle de l'enjeu financier. C'est évidemment, ça peut être un des critères, mais c'est loin, de mon point de vue, d'être le seul. Ce qui compte pour moi, c'est la difficulté du dossier, le temps que le collaborateur va y consacrer. Je vais pas lui faire remplir une machine. Je le sais, je le vois, parce que je suis au quotidien avec lui à retravailler sur le mémoire, à retravailler sur le dossier. Donc je sais très bien, je vois très bien les dossiers qui sont complexes et ceux qui ne le sont pas. Ben, tout simplement, lorsque le dossier sera complexe, je déforfaitiserai le collaborateur sur ce dossier. Et en revanche, ben, évidemment que j'ai des dossiers, lorsque j'accepte des dossiers à l'aide juridictionnelle, il y a des dossiers où... ben, tout simplement, j'ai une rétrocession d'honoraires de mon collaborateur sur le dossier qui est plus élevée que ce que je vais gagner sur le dossier. Ça ne me pose pas de difficulté, c'est bien normal. Okay. C'est moi qui porte la charge, c'est mon cabinet qui porte la charge de l'aide juridictionnelle, ça me paraît parfaitement normal.
Et donc du coup, ça veut dire que si je schématise de façon extrêmement simple, je suppose que c'est bien plus compliqué, mais on a des dossiers qui sont caractérisés comme aisés, des dossiers très aisés, des dossiers complexes, des dossiers très complexes, des dossiers très très complexes. Et en fonction de ça, vous avez une rémunération différente qui est attachée au dossier pour le collaborateur qui prendra la tâche.
C'est en substance à peu près cela. C'est-à-dire effectivement, en fonction de la complexité du dossier, après, il faut essayer de faire des choses simplement. Une fois encore, on peut tout simplement sortir des forfaits lorsque ça nécessite de le faire.
Très clair. Est-ce que vous voulez nous parler d'un dossier qui vous a particulièrement marqué dans le sens positif, un dossier dont vous êtes fier par rapport à une évolution jurisprudentielle importante ou par rapport à des faits d'espèce même qui, soutenus par le droit, étaient vraiment forts pour vous. Et après, j'aurai le pendant négatif, si vous voulez d'ailleurs commencer par le négatif et finir par le positif. C'est comme vous le souhaitez. Si vous pouvez pas citer les noms, ne les citez pas. Mais en tout cas, avoir un peu un retour d'expérience.
Alors, je suis quelqu'un d'extrêmement positif. Et donc, j'ai, comme tous les avocats, quand je perds, des frustrations, c'est entendu. Mais pour autant, j'essaye d'en tirer quelque chose. Et paradoxalement, c'est peut-être les dossiers dans lesquels je perds que je retiens le plus. Alors, je veux bien vous donner des exemples. Il n'y a pas de difficulté, mais souvent, les dossiers qui vous marquent sont les dossiers dans lesquels vous avez espéré, en tout cas, un revirement de jurisprudence, c'est-à-dire une évolution du droit, c'est-à-dire indépendamment, je dirais, de l'intérêt de votre client, parce que vous avez le sentiment que vous tenez entre les mains ce dossier qui est susceptible de faire évoluer la jurisprudence, et en réalité, malheureusement, vous ne parvenez pas à convaincre la Cour de cassation ou le Conseil d'État d'évoluer. Le souvenir que je peux évoquer avec vous, c'est justement un dossier dans lequel je ne suis pas parvenu à convaincre la Cour de cassation. Ce qui m'a marqué dans ce dossier, c'est tout simplement que c'était un des tout premiers dossiers que j'ai plaidé devant la Cour de cassation. Vous le savez peut-être, mais on plaide assez peu devant les juridictions suprêmes. On plaide en réalité les affaires de principe, celles dans lesquelles il y a une difficulté particulière. Pour le reste, la procédure, et on peut le comprendre, est une procédure qui est pour l'essentiel écrite. Et l'une de mes toutes premières plaidoiries devant la Cour de cassation était une plaidoirie devant la Chambre criminelle sur une question extrêmement intéressante de droit pénal des affaires. Il s'agissait de savoir s'il fallait transposer le mécanisme de la faute détachable du dirigeant social dans l'hypothèse où les juridictions répressives n'étaient saisies que d'une action civile. Question passionnante parce que, tout simplement, au carrefour des droits, au carrefour de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque en creux, c'est la présomption d'innocence qui est en cause sur la qualification de la faute, droit commercial, puisque évidemment on est en matière de faute détachable des dirigeants sociaux, droit pénal, puisque c'est tout l'enjeu de l'action civile. Et j'étais convaincu de la thèse à soutenir, convaincu de la nécessité qu'il y avait pour le juge répressif, précisément, à retenir la nécessité d'une faute détachable lorsque elle n'était saisie que de l'action civile et que l'action pénale était éteinte. Cette affaire a été renvoyée devant une formation plénière de la Chambre criminelle, c'est-à-dire la formation la plus solennelle. Et ce que je retiens le plus, au-delà du fait que je n'ai pas réussi à convaincre, ce que je retiens le plus, c'est la qualité des débats. C'est-à-dire que lorsque vous vous présentez comme ça devant une formation plénière d'une chambre de la Cour de cassation, vous avez une qualité d'écoute absolument incroyable. Vous avez des contradicteurs absolument extraordinaires. J'avais comme avocat général, contre la thèse que je soutenais, M. Salomon, qui est un grand spécialiste de droit pénal des affaires. J'avais comme confrère Didier Boutors en face de moi, qui est un très très grand spécialiste de ces questions-là. Et donc, bien entendu, que vous avez la frustration de l'avocat qui n'a pas réussi à convaincre. Mais en creux, vous pouvez aussi avoir le sentiment que vous avez essayé d'amener tout simplement cette question et essayer d'amener cette problématique jusqu'au bout. Et que une fois que vous avez tout simplement déposé les armes, une fois que vous avez terminé de plaider, que les jeux vont se faire, bah, cette responsabilité, c'est celle du juge, hein, celle de trancher. Mais je trouve qu'à une époque où il est encore une fois de bon ton de critiquer la justice, voir que sur des questions qui sont quand même relativement techniques, relativement complexes, vous avez comme ça une construction jurisprudentielle qui se fait dans de telles conditions, avec autant de magistrats. Parce qu'une formation plénière de chambre, c'est quand même quelque chose. Avec autant de magistrats, avec autant d'intervenants, parle pas pour moi bien entendu, mais de qualité, eh bien vous avez quand même le sentiment d'une justice qui a été rendu dans d'excellentes conditions. Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut faire preuve de naïveté, mais ça veut néanmoins dire qu'on est capable de produire ça dans un système où la Cour de cassation examine à peu près 15 000 pourvois par an. Et je trouve que c'est plutôt à mettre au crédit de la justice. Et donc, voilà une expérience qui m'a particulièrement marqué, parce que elle a été assez fédératrice pour moi, en ce sens que j'ai peut-être précisément à l'occasion de ce dossier compris que il y avait aussi dans tout simplement l'échec, il y avait aussi quand même de la construction jurisprudentielle. Et d'ailleurs, comme je ne suis pas homme à renoncer, j'ai de nouveau porté la même question. Pour l'instant, je ne suis pas encore parvenu, mais je ne doute pas qu'un jour, cette solution finira par l'emporter. Voilà. Après, j'aurais plein d'anecdotes à vous raconter. J'ai d'autres expériences qui ont été très fédératrices, mais celle-là m'importe parce que c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup travaillé, et une fois encore, bien entendu qu'il peut y avoir la frustration, mais je crois que, tout simplement, cette culture aussi de l'échec est importante dans l'apprentissage d'un avocat, parce qu'elle le projette vers l'avenir.
Très clair. Est-ce que vous avez un mot de la fin à nous rajouter ? Parce que j'ai quand même parlé, enfin j'ai quand même pris beaucoup de temps de votre après-midi, et je vous ai fait beaucoup parler. Est-ce que vous avez le mot de la fin, la minute de la fin, de Maître Jérôme Maigret ?
Écoutez, si je devais avoir un mot de la fin, c'est l'envie. Voilà, c'est-à-dire que continuer à cultiver l'envie de faire ce métier absolument passionnant que j'ai la chance d'exercer. Une fois encore, je ne suis pas né en me disant que j'allais devenir avocat au Conseil, mais je pense que si j'étais passé à côté, je ne serais pas aussi heureux que ce que je suis aujourd'hui. Et je crois pouvoir dire, même si je vous connais assez peu, que vous êtes passionné par ce que vous faites, je crois que c'est l'une des clés de la réussite, indépendamment du reste. C'est la passion, l'envie, le goût. Et donc, tout simplement, c'est dans cette perspective-là que je me projette, continuer une fois encore à m'épanouir dans ce que je fais quotidiennement, parce que ce métier est passionnant et qu'il offre des perspectives absolument extraordinaires.
Jérôme, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Je suis convaincu que les auditeurs de ce podcast l'auront beaucoup apprécié par rapport au regard différent des propos que je peux tenir habituellement, et également par rapport à votre métier qui est singulier et assez peu connu du grand public et également des avocats.
Merci à vous.
Et voilà, le podcast est fini pour aujourd'hui. J'espère que celui-ci vous a plu, mais si vous en êtes arrivé jusque-là, je pense que oui. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à le diffuser et à nous recommander des avocats que vous aimeriez voir sur ce podcast. Bonne journée et à très vite.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.